Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Midi, bientôt 31 minutes sur Alger Chaîne 3, l'édition complète avec Nariman Mendil. Nariman, bonjour.
Bonjour Hafeda, madame, monsieur, bonjour. Et à la une de l'actualité, les travaux d'aménagement de la mine de plomb et de zinc de Wadamizor sont officiellement lancés. Son exploitation ou son entrée en exploitation est prévue pour 2028. Elle produira 2 millions de tonnes de plomb et de zinc et permettra de booster l'économie locale. La nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire de Eid al-Fitr, c'est demain. Et à deux ou trois jours de cette fête religieuse, les Algériens poursuivent leur virée shopping. Consomment-ils local ou importé? Nous les écouterons dans le journal. Le ministère de l'Éducation nationale annonce des changements dans le calendrier des examens du troisième trimestre pour les trois cycles de l'éducation nationale. L'entité sioniste annonce avoir tué le ministre iranien du renseignement au lendemain de l'assassinat de Ali Larijani. Téhéran promet de venger ses leaders. Véritable coup de théâtre dans le monde du football. Plus de deux mois après la finale de la CAN, le jury d'appel de la CAF retire le titre gagné sur terrain par le Sénégal et déclare le pays hôte vainqueur. Et en sport, suite de la 24e journée de la Ligue 1, aujourd'hui, quatre matchs sont au programme. Madame, monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, les travaux d'aménagement de la mine de zinc et de plomb de Wadamizor sont officiellement lancés. C'est le premier ministre qui a donné le coup d'envoi hier dans la wilaya de Béjaïa. Le gisement produira annuellement 2 millions de tonnes de minerais bruts, une production qui permettra à l'Algérie d'intégrer la liste des pays producteurs de minerais, affirme le premier ministre Sifer Diop.
Les travaux ont commencé dans cette mine qui apportera une valeur ajoutée en termes de ressources que l'Algérie mettra sur le marché international. Cela permettra également à l'économie nationale de se positionner sur la scène mondiale des matières premières, lesquelles, comme vous le savez, sont devenues récemment un pilier économique majeur et un enjeu de coopération entre les différents pays détenteurs de richesses minières.
Les travaux sont lancés, mais l'exploitation de la mine passe par plusieurs étapes. Son entrée en service est prévue dans deux ans, précise le PDG de Sonarem, Reda Belhadj. Il en parle au micro de Rimboukadou.
On va entamer les travaux pour la construction de cette mine et en parallèle entamer la construction de l'usine de concentration qui va nous permettre de valoriser le minerai qu'on va extraire de cette mine. C'est une mine qui va être exploitée à une profondeur de 600 mètres qui est très considérable. C'est une occasion pour nous d'avoir cette compétence d'une part, mais aussi de couvrir les besoins nationaux en termes de zinc principalement et vendre le surplus sur le marché international. On espère démarrer l'exploitation de la mine fin 2028.
Un projet à portée socio-économique très importante. Plus de 3000 postes d'emploi devraient être créés. La mine devrait également insuffler une nouvelle dynamique économique à toute la région. Rimboukadoum.
Les retombées socio-économiques du projet de Wadamizor sont considérables en misant sur le traitement local des minerais de zinc et de plomb. Le projet ouvre la voie à une rationalisation des importations de produits finis tout en renforçant progressivement l'autosuffisance industrielle. Miriam Touati, directrice générale de BZL.
Ce projet s'inscrit bien sûr dans une stratégie nationale de diversification de l'économie et contribuera bien sûr à positionner l'Algérie parmi les producteurs importants de zinc à l'échelle internationale, tout en permettant bien sûr de réduire les importations de métaux non ferreux. Sur le plan socio-économique, il devrait générer plus de 700 emplois directs et 3000 voire 4000 emplois indirects, notamment dans les secteurs du transport, des services, de la logistique, du bâtiment et de la maintenance.
Au-delà de l'effet macroéconomique, le projet agit comme un véritable levier territorial. Il dynamise le tissu local à travers la sous-traitance, stimule l'émergence d'activités connexes et de nouvelles ressources de financement pour le développement régional. Abdelkader Mechdel, économiste.
L'impôt local qui va être généré par l'activité économique en relation avec l'exploitation du gisement, ce qui donnerait un outil d'intervention important pour l'amélioration des services destinés aux populations de la wilaya de Béjaïa et bien sûr en particulier de Amizour et Tel Hamza.
Le projet ne sera pas seulement un gisement mais un catalyseur de développement transformant la richesse du sous-sol en valeur ajoutée durable au service de l'économie nationale.
L'Algérie acquiert un savoir-faire dans le secteur des mines, mais aussi celui des hydrocarbures. Elle le partage avec les pays voisins, notamment dans le cadre du gazoduc transsaharien. D'ailleurs, une équipe de Sonatrach est en ce moment au Niger pour récolter les données techniques sur le tracé, notamment la pose des canalisations, les études d'impact environnemental et les autorisations de construction. Une mission qui entre dans le cadre donc de la réalisation du gazoduc sur le sol nigérien. Le Maroc veut inonder l'Algérie avec des quantités astronomiques de cannabis. La preuve en est la saisie de plus de 170 kilos de résine de cannabis à la fin du mois de janvier uniquement et arrêter plusieurs narcotrafiquants marocains. C'est ce qu'expliquait ce matin l'invité du jour, Mohamed Saïd Benazouz, docteur d'État en sciences politiques et spécialiste des questions sécuritaires. Il explique que ce trafic est alimenté directement par le Marzen. On l'écoute. Il répondait aux questions de Nsérine Dahmoun.
Vis-à-vis de l'Algérie, essayer d'inonder avec cette substance de cannabis, avec toutes les conséquences sociales et sociétales de déstabilisation que nos voisins veulent instaurer chez nous. Pour ce faire, vous aviez des saisies records de plusieurs tonnes par un seul chargement. N'importe quel trafiquant ne va pas se risquer de mettre 2, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes de cannabis dans un seul chargement. Parce que s'il perd, il perd tout. Ça se voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire le backup. Il y a quelqu'un qui est en train de le pousser, de faire ça. Ses pertes sont compensées. Il n'a pas de pertes.
Le trafic de cannabis marocain est international. Il sert de blanchiment d'argent via les fondations liées au roi du Maroc et soutenu par le principal allié actuel du royaume, à savoir l'entité sioniste, nous dit Mohamed Saïd Benazouz.
Cette marchandise est écoulée en Europe, essentiellement. Elle va aussi au Moyen-Orient, elle va jusqu'à l'allié israélien et qui fait à peu près la même politique que nos voisins. Et là, vous avez le revenu de cette drogue. Il est blanchi, revient au Maroc à travers certaines fondations comme la fondation Hassan II, etc. Et on chiffre ça en tant qu'apport de l'immigration, etc., de la diaspora, etc. Personne n'est dupe, même les Européens.
Et ce coup de théâtre dans la CAF, l'entité ou l'instance sportive, le jury d'appel qui annonce après deux mois de la finale de la Coupe de la CAF, un changement du vainqueur, Ali Hamouch.
En effet, Naniman, c'est sans aucun doute le plus grand scandale du football africain et peut-être même du football mondial. La Confédération africaine de football qui a annoncé le sacre du Maroc sur tapis vert en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, du jamais vu dans les annales du football. Donc le jury d'appel qui considère que la Fédération sénégalaise de football, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cet article en question, donc, qui stipule que si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée. Et l'article 84 qui stipule que l'équipe en question qui sera exclue de la compétition et elle perd 3-0 donc sur tapis vert. Mais il faut savoir que le Sénégal n'a pas refusé de terminer le match puisque les joueurs sont revenus sur le terrain. L'arbitre a poursuivi le match et il y a eu également la signature de la feuille de match par les deux capitaines et également le trophée qui a été remis donc au Sénégal, ce qui donc donne gain de cause au Sénégal. Il y a eu des réactions à travers le monde. On va écouter Claude Leroy qui connaît bien le continent africain puisqu'il exerce depuis 40 ans.
Toutes les décisions sont bafouées par la CAF. J'ai mis en exergue très souvent le comportement de M. Infantino, qui se considère comme le Trump du football africain, savoir qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Est-ce qu'on peut imaginer le voir diriger une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA? Non, mais en Afrique, il se permet tout. Et je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et plein de tambouilles. On est en pleine période électorale, donc on peut voir un petit peu tout ce qui se passe. C'est pitoyable pour l'image que donne encore la Confédération africaine de football. Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque.
Et la Fédération sénégalaise qui a réagi en dénonçant une décision inique, sans précédent et inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain, et elle a décidé de porter l'affaire auprès du tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne. Il faut savoir, Naniman, qu'il y a eu un antécédent, c'était en 2019, et la Confédération africaine de football a été la première à bafouer ses propres règles, puisque sur la finale de la Ligue des Champions, les joueurs du Wydad de Casablanca qui se sont retirés et qui ont refusé de poursuivre la rencontre face à l'Espérance de Tunis, et la CAF avait demandé à faire rejouer le match et donc donner gain de cause au Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis qui avait fait appel auprès du TAS, et elle a eu gain de cause, donc le TAS qui avait désavoué la décision de la Confédération africaine de football, et il est certainement clair qu'on va diriger vers la même décision de la part du tribunal arbitral du sport qui va conforter le Sénégal dans sa décision et son appel.
Dossier donc à suivre. Et au Maroc, la hausse importante des prix du carburant ravive les tensions sociales dans un contexte économique déjà fragilisé entre inflation persistante, pouvoir d'achat en berne et inquiétude croissante des ménages. Les professionnels du transport, les agriculteurs et de nombreux secteurs dépendants du carburant tirent la sonnette d'alarme. Cette situation alimente un climat social déjà bien tendu, nous dit l'analyste politique Nedj Mohamed. Il est contacté par la BAS.
Les prix des carburants connaissent une forte hausse au Maroc. Cette flambée s'inscrit dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient et de hausse des cours du pétrole frappe durement les ménages au cœur d'une crise socio-économique persistante. Le gouvernement qui tablait sur un baril de 65 $ dans la loi des finances 2026 doit absorber ces chocs sur fond, bien sûr, de chômage en 2025. Cette hausse renie le pouvoir d'achat déjà fragilisé. Plus de 60% des Marocains sous le seuil de la pauvreté, les transporteurs répercutent les coûts sur les produits de base, aggravant l'inflation et le mécontentement social. Sur le terrain, des tensions apparaissent aussi entre certaines stations, services et les compagnies pétrolières. Des exploitants dénoncent des retards et des réductions de livraison qu'ils interprètent comme une volonté de conserver les stocks avant la hausse.
Et dans un contexte de forte tension énergétique internationale, aujourd'hui, le Maroc dépend en grande partie de l'Espagne pour son approvisionnement en gaz, nous explique Nedj Mohamed.
Le gouvernement pourrait être amené à réactiver des mesures de soutien comme celles mises en place à partir de mars 2022 pour aider directement les transporteurs, un dispositif qui avait mobilisé près de 7 milliards de dirhams jusqu'en 2024. L'Espagne aussi pourrait, par exemple, faire des restrictions par rapport au gaz liquéfié, et donc ça va impacter le marché intérieur.
Et la guerre en Iran, l'entité sioniste annonce avoir tué le ministre iranien du renseignement au lendemain de l'assassinat de Ali Larijani, puis pilier du pouvoir iranien. Téhéran promet de se venger, prévient « la guerre va frapper tout le monde ». Les funérailles de Ali Larijani, le puissant chef de la sécurité, ont lieu aujourd'hui, en même temps que celles du dirigeant de la force Basij. En visant le centre de décision du pouvoir iranien, les interlocuteurs potentiels, l'entité sioniste veut torpiller toute tentative de dialogue et fermer la porte à une issue diplomatique et prolonger la guerre, nous dit le politologue Bernard Ourcadet. Il est contacté par la Béa Slimani.
Les Israéliens assassinent systématiquement tous les leaders iraniens qui seraient capables d'assurer une transition, de sortir de la guerre et de négocier avec tout honneur la sortie de la guerre. La mort de Larijani est un peu une catastrophe parce qu'elle laisse la place au contraire aux plus radicaux du système. Et ce qui est à craindre, c'est que le successeur de Larijani, quel qu'il soit, n'ait jamais son autorité ni sa capacité à trouver des solutions pour sortir de la crise. Le problème est de fond. Actuellement, les États-Unis attaquent non pas le régime iranien, mais l'État iranien en visant notamment les exploitations de pétrole de l'île de Cargue où 90% du pétrole iranien passe. Donc c'est une guerre un peu sans fin pour l'instant. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure il y aura en Iran une recomposition politique qui permettra qu'un certain nombre de leaders réussiront à gérer la transition nécessaire.
Et les médias sunnites annoncent que le président américain Trump envisagerait une opération militaire pour prendre le contrôle du détroit d'Ormuz qui pourrait durer plusieurs semaines. L'entité sioniste se prépare même à renforcer sa présence dans la région. Les tentatives visant une coalition internationale pour sécuriser ce passage stratégique ont pour le moment toutes échoué. On écoute une nouvelle fois Bernard Ourcadet.
Personne ne veut prendre par la force le détroit d'Ormuz. Il faudrait envoyer des dizaines de milliers de soldats et des troupes en nombre inconsidéré. L'Iran compte eux-mêmes de son côté un très grand nombre de petits vaisseaux qui pourraient harceler les terres dans le détroit. On ne voit pas trop maintenant politiquement comment ça pourrait finir. La seule question qui compte, c'est de voir en quelle mesure les positions de Trump et de Netanyahou seront différentes. Les deux mènent une guerre qui n'est pas du tout la même. Et on l'a vu aux États-Unis, des leaders importants ont signalé que Trump a eu tort de suivre Netanyahou dans une guerre qui n'est pas la sienne. La guerre se passe également aux États-Unis. Le prix du gallon d'essence était sacré aux États-Unis. L'augmentation crée des troubles sociaux et des protestations importantes. Il est possible que Trump décide d'arrêter, de déclarer qu'il a gagné la guerre sur n'importe quel prétexte et que les négociations reprennent ensuite. Et cette guerre a été voulue par deux pays, contrairement à toutes les règles internationales, et donc il n'est pas question que des pays européens puissent s'associer à une guerre qui n'est absolument pas justifiée sur le plan international et sur le plan du danger quel qu'il soit. Cet isolement américain et israélien est préfigure un peu de recomposition politique à venir.
Le Liban est également bombardé. Le sud Liban est bombardé par l'armée sioniste qui annonce qu'elle va frapper les ponts sur le fleuve Litani. L'entité sioniste a mené ce mercredi des frappes à répétition au cœur de Beyrouth, faisant au moins 12 morts et 41 blessés selon les autorités MLAZIP.
Oui, l'est et le sud du Liban ébranlés. Le Liban qui a reçu un ordre d'évacuation à propos a provoqué la panique dans la région de Tir notamment. Trois quartiers densément peuplés de la capitale ont été visés. L'entité sioniste qui a également mené des frappes sans avertissement contre deux quartiers populaires. Agression qui a fait au moins 912 morts, dont 111 enfants, selon les autorités, jetés sur la route plus d'un million de personnes, soit plus du sixième de la population. À Saïda, principale ville du sud, une frappe a visé ce matin une voiture qui a fait deux morts, selon notamment un secouriste de la défense civile. La pression s'intensifie au Liban. L'entité sioniste dit vouloir entreprendre et éradiquer le mouvement Hezbollah. Le directeur des programmes de la télévision Al-Manar et son épouse ont été tués lors d'une frappe aujourd'hui. L'entité sioniste qui vient d'appeler et qui vient de rappeler la population qu'elle allait frapper les ponts du fleuve Litani. Le fleuve Litani qui coule dans le sud du Liban à une trentaine de kilomètres avec la frontière de l'entité sioniste. L'entité sioniste donc qui perpétue la violence. La spirale s'intensifie crescendo, 19e jour de l'agression américaine contre l'Iran. Pour le moment, le langage de la force reste maître mot de la situation.
Et à 12h48, retour chez nous. La nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire aura lieu demain, jeudi, après la prière d'Al-Maghreb. La cérémonie aura lieu comme chaque année à Dar el-Imam. Al-Mohammedia annonce le ministère des Affaires religieuses. Elle sera diffusée sur les médias nationaux. Et en cette veille de Eid al-Fitr, les ménages continuent leurs achats et virées shopping, notamment pour l'habillement, vêtements, chaussures, un marché couvert essentiellement par l'importation, mais de plus en plus de marques algériennes voient le jour. Alors, produits importés ou made in Algeria, Younes Djoudi a posé la question à des citoyens. Reportage.
De plus en plus d'Algériens choisissent d'acheter des vêtements produits localement. Un choix qui soutient l'économie nationale, encourage les artisans et valorise le savoir-faire algérien. Autre avantage, l'impact environnemental. Des circuits plus courts signifient moins de transport, donc moins de pollution, malgré des prix parfois plus élevés. La qualité et l'authenticité séduisent de plus en plus les consommateurs. Certains même n'hésitent pas à s'habiller totalement en made in Algeria.
J'ai les chaussures, le pantalon Tirico, la chemise, sauf la veste.
Franchement, mais Algérien est de meilleure qualité que ce qui est importé. Sauf si vous optez pour l'origine. Et l'origine coûte excessivement cher. J'ai besoin de souliers orthopédiques. Donc l'Algérien...
C'est compliqué de trouver des souliers orthopédiques algériens.
Non, de bonne qualité, il y en a. Il y a des souliers algériens qui sont d'excellente qualité, mais qui ne sont pas orthopédiques.
Ainsi, l'industrie textile algérienne s'impose comme un choix engagé et responsable. Judy Younes pour la Radio Chaîne 3 depuis le marché de Sertuada.
Nous célébrons en ce 18 mars la journée de la victoire ou la fête de la victoire qui a lieu, rappelons-le, le 19 mars. À cette occasion, le président de la République adresse un message à la nation où il rend hommage à cette victoire arrachée par les Algériens, une date historique. Le président de la République qui rappelle que l'Algérien ou les Algériens, le peuple algérien a arraché cette victoire après une révolution unique qui ne s'éteint pas, une révolution conduite par des héros qui ont cru en cette indépendance algérienne. La conférence et ce matin, le forum Al-Mujahid a célébré justement cette journée ou cette fête de la victoire militaire à la victoire diplomatique. C'est célébré, on célèbre donc le 64e anniversaire. La célébration a eu lieu, je le disais, ce matin au siège du journal Al-Mujahid, organisé par l'association Mash'al Shahid. L'événement rend hommage au Mujahid Karim Belkacem et revient sur son rôle dans l'histoire de l'Algérie. Mahdi Haddaoui.
Le 19 mars, ce n'est pas seulement la fin des combats. C'est aussi le fruit des longues négociations et d'un travail diplomatique décisif. Kawtar Belkacem, fille du martyr Karim Belkacem, revient sur la lourde responsabilité de son père et sur le chemin parcouru jusqu'aux accords d'Évian.
C'était une lourde responsabilité à prendre. Mais en amont, il y a eu énormément de travail qui a été effectué. Il y a eu Évian 1, Évian 2. Et puis aussi, avant ça, pour être reconnu en tant que tel, à l'international, il y a eu beaucoup de travail. C'est une mission très lourde, mais pour les millions de chahides qui sont morts, mon père n'allait jamais s'arrêter jusqu'à la victoire.
Pour transmettre cette histoire aux générations futures, le journaliste et scénariste Boukhalfa Amazit explique comment il a travaillé pour raconter la vie de Karim Belkacem.
Ça n'a pas été facile de travailler sur le scénario. Très peu de livres ont été consacrés à la vie. Il est dans tous les livres, mais il n'y a pas de livre en dehors du livre de Hamdan qui a été fait dans les années 70, en dehors des longues interviews qui ont été faits par Yves Courrière. Le personnage en lui-même, c'est un personnage de légende, c'est un personnage qui appartient au roman national, au récit national, quelqu'un qui a marqué par sa présence, d'abord l'histoire du mouvement national, avant le déclenchement de la guerre de libération, qui a marqué la guerre de libération, parce qu'il a été le premier maquisard, c'est lui qui l'a refermé derrière le colonialisme, qui a négocié les accords d'Évian.
Cette conférence nous rappelle que la victoire algérienne n'est pas seulement gagnée sur le terrain militaire, elle s'est construite aussi dans la diplomatie, la mémoire et la volonté de ceux qui ont façonné l'histoire du pays.
On rappelle qu'en cette occasion, le président de la République adresse un message aux Algériens, un message qui vient de nous parvenir. Il rend hommage donc au sacrifice des martyrs et rappelle toutes les réalisations que l'Algérie indépendante a réalisées depuis donc cette fête de la victoire le 19 mars 1962. Et pour une dernière information avant de clore les pages de cette édition. De nouvelles dates pour les examens du troisième trimestre pour les trois paliers. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce matin une modification du calendrier. L'examen d'évaluation des acquis du cycle primaire aura lieu le 3, 4 et 5 mai. L'évaluation des acquis, par contre, les examens du troisième trimestre sont programmés pour la semaine du 10 au 14 mai. Pour les rattrapages, les dates restent inchangées. C'est le 22 et 23 juin. C'était là la dernière information de cette édition. Elle a été réalisée par Aïcha Hammer et Hafid Meja. Sedir était à la technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Hakim Bey.
Maxwell, votre partenaire électroménager et sa gamme de lave-vaisselle Cara Series vous présentent la météo du jour. Maxwell, for a better life.
C'est l'heure de la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement.
Ambiance printanière quasiment sur l'ensemble du pays avec un temps qui reste doux et ensoleillé, température certes un peu fraîche le matin mais agréable et confortable pour le reste de la journée sur les régions du nord, une moyenne de 17 à 18 degrés avec des pics de vent à Oran, Mestranem, Aitimushin, Tarolizan, Maskar, il fera 17 à Tlemcen, 17 du côté de Bjaïa, Djidjili, Annabal, Qala à l'est du pays et 20 degrés à Alger, Boumerdès, Atipaza. Il fera 15 degrés à Blida. Du côté de Mdia, il fera 14 à 15 degrés à Djelfa al-Bayed, Naamam Shiria et Saïda. Du côté de Trinchla, 17 degrés à Tbessa, Sogaras, Amsilach. Pour le nord, Sahara, là aussi, un temps très agréable. Ciel dégagé, température autour de 23 à 24 degrés. Bchar el-Daya, Mriyar, Oulad Jellal. Il fera à Tougourt autour de 24 degrés. À Timimoun, sur la moitié sud, Djanet, Hassim Saoud, Inamenas. Le Mercure aussi ira entre 25 et 27 degrés. Des pics de 30 à Burj Badi Mukhtar et Ingezem, là aussi, tendance générale printanière. On profite de l'accalmie avec des nuages qui pourraient venir au courant de la journée sur les régions ouest pour un peu contrarier et taquiner le soleil, mais sans vraiment donner de risque d'averse.
C'était la météo avec Maxwell, votre partenaire électroménager et sa gamme de lave-vaisselle Cara Series. Maxwell, for a better life.
C'était la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement.